Cette balado-diffusion a été enregistrée à la conférence sur l'eau Sommet Bleu.
Bienvenue dans Halifax. Et c'est toujours problématique de quitter Halifax avec le temps qu'il fait là. Alors, Brad Lynn, qui est à ma gauche, il est conseiller de la recherche du syndicat canadien des syndicats des employés à Burnaby. Et il a fait beaucoup de recherches, il a rédigé beaucoup de documents, même des volumes d'analyse sur les privatisations et aussi sur les PPP. C'est des choses qui le préoccupent et l'occupent beaucoup. Malheureusement, ça prend toujours de plus en plus de son temps au fur et à mesure de l'essor des PPP et de la privatisation. Il a participé à beaucoup de campagnes pour protéger les eaux publiques et les eaux usées. Il a travaillé très fort, comme les Britanniques aussi, sur l'électricité. Entre 1994 et 2001, il était administrateur de le service public de la Colombie-Britannique. Il a occupé plusieurs postes. Il était sous-ministre emploi et investissement du gouvernement de la Colombie-Britannique. Ancien gouvernement, bien sûr. Il est actuellement vice-président du conseil d'administration de Oxfam Canada. Alors, merci.
Blair Irving a parlé, entre autres, du gros défi de l'infrastructure, de l'absence d'infrastructure. Il y a 10 ans, quand on s'est rencontrés au sommet de l'eau en 99, c'était le gros sujet de conversation pour les gouvernements municipaux. On savait que l'infrastructure se détériorait gravement, mais il n'y avait pas d'argent pour traiter le problème. Il n'y avait pas d'autre solution que de se tourner vers le secteur privé pour obtenir de l'argent du secteur privé et des compagnies internationales d'eau pour réparer les problèmes. Ça fait 10 ans de cela. Quelle est la situation maintenant quant à l'état des systèmes publics de distribution d'eau au pays? Bon, vous avez raison. Ce fut l'incitatif au cours de la dernière décennie. On a essayé de continuer de procéder ainsi, de faire valoir cette idée d'une exploitation privée de nos systèmes publics de distribution d'eau par ce mécanisme qu'on appelle les partenariats publics-privés. La propriété légale, en théorie, reste avec le système public, mais il y a des contrats qui peuvent aller jusqu'à 40 ans avec des exploitants du secteur privé. Et bien souvent, ces compagnies privées financent l'infrastructure aussi. Alors, pour traiter de ce déficit d'infrastructure, on a mis de l'avant cette idée. Et c'était tellement important que la coalition aux aguets s'est constituée il y a 10 ans. Et nous avons fait du travail en coalition dans les communautés partout au pays. On les a repoussés dans plusieurs cas. Mais la grande majorité, presque tous nos systèmes d'eau au Canada sont de propriété publique et financés par le secteur public. Ce serait une aberration que d'avoir une exploitation privée. C'est une expérience, finalement, qu'ils veulent proposer aux communautés. Et comme l'a dit dans ses remarques, partout au pays du Grand Vancouver, avec l'usine de filtration et à Whistler, à Nanaimo, dans les communautés d'Alberta, dans les prairies récemment, à Winnipeg, à Halifax, à Montréal, à Hamilton, à Toronto, dans plusieurs communautés où nous avons repoussé ces tentatives, généralement avec succès. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons pour cela. Mais l'une d'elles, c'est que les gens sont fort inquiets des systèmes d'eau. Et ils en comprennent très bien la grande valeur. Et je pense que ça vaut la peine de réfléchir un petit peu au cheminement que nous avons suivi. Comment on en est arrivé où nous sommes? Ça ne nous a pas été simplement donné ce système public au Canada. Les gens se sont débattus longtemps au fil de l'histoire pour ces systèmes. Si vous pensez au Canada il y a 125 ans, nous étions un pays en développement. Nous n'avons pas toujours été un pays industrialisé, prospère et développé. Les Européens, les Asiatiques, d'autres sont venus ici en territoire autochtone Et il y avait de grands problèmes de santé, bien sûr, à cause de maladies transportées par l'eau. Je pensais à quelques exemples. En 1832, 20 000 personnes, croit-on, sont mortes dans le Haut et le Bas-Canada de choléra. Lorsque l'immigration irlandaise est arrivée, 6 000 des familles irlandaises sont mortes de la typhoïde au Canada. Et bien sûr, les Autochtones, depuis, souffrent de diverses maladies et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est si important de traiter de la crise de l'eau dans les populations autochtones. C'est une question de santé publique. Et quand on a commencé avec le système public, il était exploité par des compagnies privées. Alors qu'on a voulu assurer la distribution de l'eau de façon universelle au Canada, il y avait des compagnies privées dans des villes comme Toronto, Montréal, Vancouver, Hamilton. Les gens n'étaient pas satisfaits de la qualité des services offerts par ces compagnies privées. J'ai une citation ici de Karen Barker, qui est professeure de l'Université de Colombie-Britannique, qui a dit dans un livre qui s'appelle « Au Canada », l'épidémie de typhoïde au 19e siècle, conjuguée avec l'incapacité apparente ou le manque d'intérêt de la part du secteur privé de financer la distribution universelle, a forcé les gouvernements à prendre la relève. Donc, dans la ville de Vancouver, en 1891, il y a eu un référendum des citoyens là-bas pour que le système d'eau retourne au secteur public. En 1925, dans la ville de Victoria, on a simplement exproprié la compagnie privée. Et c'était le cas comme cela partout au pays. Nous avons remplacé le secteur privé par le secteur public parce que dans le secteur privé, on est assujetti au ce qu'on appelle aux échecs du marché dans un système où il y a des monopoles naturels. Si vous voulez assurer la distribution de l'eau et à tout le monde et une bonne hygiène, il faut avoir une sorte de monopole et ce n'est pas approprié pour le secteur privé. Aussi, si l'on pense à l'hydrologie naturelle, le fait que l'eau est reliée de très près à l'écologie, à l'environnement, il est très difficile d'établir des droits de propriété traditionnels sur l'eau, quoique ils essaient toujours. Alors, c'est aussi le cas que si quelques personnes dans la communauté ont des maladies transportées par l'eau, c'est une menace pour tout le monde. Il était donc crucial, enfin, ces idées que nous avons au Canada sur la protection de tout le monde, c'est pour cela qu'on a des systèmes publics de traitement des eaux usées et d'eau potable. Et aussi, c'était très important pour le développement économique que les gens, que les entreprises sachent que les travailleurs avaient de l'eau potable. C'était crucial pour la prospérité du Canada. Et c'est pourquoi il est très ironique, malheureusement, qu'on regarde le tiers-monde maintenant, les pays pauvres du Sud ou même nos communautés en développement au Canada comme les Premières Nations. On voit que maintenant, nos gouvernements, nos grandes sociétés se tournent vers ces gens-là et leur disent « Vous n'avez pas le droit de développer comme nous, on l'a fait au Canada. » Au Canada, nous avons mis sur pied nos systèmes d'hygiène publique grâce à des fonds publics et les économies ont prospéré. Mais dans ces pays-là, on leur dit, si vous voulez améliorer vos systèmes d'eau, vous devez utiliser les PPP avec toutes les conditions qui viennent avec. Et on leur dit qu'il faut utiliser ces compagnies multinationales. On dit que le gouvernement fédéral dit cela aux communautés autochtones aussi, qu'ils doivent avoir recours à des modèles de PPP.
Alors, pour parler de l'état de notre infrastructure au Canada, il y a une certaine croissance de ces sociétés privées malgré tous nos efforts pour les contrer. Alors, on a le modèle de sociétés comme EPCOR, qui est dans la ville d'Edmonton, qui a commencé comme Edmonton Power, société publique, mais là maintenant, l'actionnaire, c'est la ville d'Edmonton qui n'a aucun contrôle de l'exploitation des activités. Ça fonctionne comme une société privée dans le marché privé. Alors, dans l'Ouest canadien, c'est une véritable menace. Alors, aussi, on voit que la ville de Winnipeg va adopter le même modèle. Alors, c'est problématique pour les gens d'Edmonton, où il y a eu plusieurs campagnes bien réussies pour contrer les efforts de cette compagnie EPCOR pour le système de drainage, par exemple. Et nous ne voulons pas voir une autre société comme EPCOR dans notre marché à la suite des efforts de Winnipeg. Bon, pour ce qui est de notre déficit d'infrastructure, c'est toujours un problème. L'Association canadienne des eaux potables et des eaux usées a fait un rapport en 2008 pour dire que une bonne partie de notre infrastructure a plus de 50 ans. Donc, il faut investir à nouveau dans ça. Il faut remplacer l'aqueduc, les pipelines. Alors, 31 milliards de dollars pour les eaux usées est le montant mentionné. Et on dit aussi que si on faisait des investissements pour refaire l'infrastructure, pour augmenter son efficacité, par exemple, pour prévenir des fuites dans la canalisation, et si on adoptait des mesures de conservation d'eau, on économiserait beaucoup d'argent. Mais il y a tout un plan où il y a le potentiel de créer des emplois dans ce secteur. Autrement dit, on pourrait créer des centaines et peut-être des centaines de milliers d'emplois par le biais des investissements dans cette infrastructure. C'est un plan passionnant. La réponse du gouvernement fédéral, comme je l'ai dit, c'est d'encourager les PPP. Ils ont même créé un groupe qui s'appelle PPP Canada Incorporé, qui a pour but d'encourager des PPP avec les municipalités. On a même créé un fonds d'une valeur de 1,2 milliard de dollars par le truchement de mécanismes de Immeuble Canada où les municipalités peuvent avoir accès à cet argent seulement s'il y a une infrastructure faite dans un partenariat public. Alors donc, c'est du chantage auprès des municipalités. Même si la municipalité ne veut pas un PPP, il est obligé de le faire pour avoir accès à cet argent. Alors aujourd'hui, nous, la CFP, le Conseil des Canadiens, la coalition de la ville de Victoria, etc., nous voulons protéger les usines d'épuration des eaux, mais il faut des investissements publics. Ils se tournent vers le gouvernement fédéral et voilà qu'il faudra adopter un PPP pour avoir accès à cet argent. Donc, il y a du travail pour nous au niveau local et au niveau national pour dire à toutes ces instances de battre en retraite. Nous avons profité de notre système et nous voulons toujours profiter de notre système en laissant le tout entre les mains publiques. Merci, Blair. C'est intéressant parce que Ralph a parlé du gouvernement fédéral qui ne veut pas être interventionniste, mais qui, en fait, est très interventionniste en encourageant les PPP et en faisant de ça une condition préalable pour accéder à ces montants.
Cette balado-diffusion a été enregistrée à la conférence sur l'eau Sommet Bleu. Le Syndicat canadien de la fonction publique et le Conseil des Canadiens ont organisé le sommet pour souligner le 10e anniversaire de la coalition aux Aguets. Il a eu lieu à Ottawa du 27 au 29 novembre 2009.